Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
23h21, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, Julien Laurence est-il parmi nous? Julien arrive dans un instant. Ça me permet de vous glisser le trois petites infos mercato encore. Négociation intense ce soir entre Lorient et Lyon concernant Romain Febvre, qui pourrait donc retourner en Bretagne. Lille également s'intéresse à Febvre. Comme on dit dans le milieu du mercato, Lille est en embuscade. Voilà. Pareil, profil. Il a un peu le profil foot d'avant, Romain Febvre.
Ah bon?
Ouais, le profil plus, tu vois, dépositaire du jeu, moins dans la course, moins dans la course que ce que je penserais pour un Lorient. Mais non, Lorient ça peut coller, mais c'est qu'il
a plus avancé avec Lille. Lorient qu'avec Lille là, hein, pour l'instant.
Ouais, ça peut coller.
Bon, Febvre, Daniel, non, intéresse moyen.
En tout cas, enterrement de première classe pour Febvre à Lyon quand même. Hein.
Oui, il a pas réussi à franchir le palier, on va dire.
Ah oui.
Ça fait partie des dossiers.
C'est un mauvais recrutement de plus.
Mauvais recrutement, j'avoue qu'en arrivant, je pensais pas que ce serait une telle tombe pour lui, quoi. Je sais pas si après il y a pas que la faute du recrutement, il y a aussi est-ce que le joueur entre guillemets a fait ce qu'il fallait, je sais pas. Là c'est en tout cas ça fait partie des dossiers pas réussis.
Petit aller-retour de gardien, Costil. Alors, vous savez que Costil est en fin de contrat, là. Et en fait, il a une proposition de Lille avec une année de plus. Donc, il est plutôt en fin de carrière, Costil.
J'ai pas bien compris l'histoire.
En fait, il est prêt à aller à Lille sur le banc.
Jardim repart.
Sur le banc. En gros, pour avoir un an de contrat de plus, en fait.
D'accord. Donc, il lâche Auxerre au milieu.
Choix de fin de carrière, quoi. Tu es titulaire à Auxerre, fin de carrière sur le banc à Lille.
Et à Auxerre, on a fait venir.
On est en train d'officialiser l'arrivée d'un gardien roumain qui s'appelle Ionit Radu, international roumain.
Et donc, le Donovan Léon reste numéro 2, a priori, quoi. Je pense à Auxerre.
A priori.
Mmh. Voilà, très bien.
Prêt sans option d'achat. Voilà pour.
Là, tu vois, par exemple, ça fait partie quand même du foot moderne. Un gardien qui joue titulaire. Qui fait un choix économique, pour faire simple.
Oui, choix de fin de carrière.
Choix de fin de carrière et qui accepte d'aller ne pas jouer dans un autre club, en laissant son club... bon, voilà. C'est le foot business.
Exactement, c'est... allez, je t'évalue le salaire à, je sais pas, 30 000 par mois. C'est un petit choix...
30 000
Un petit choix à presque 400 000 euros sur une dernière année, quoi. Pour rester sur le banc. Réfléchis.
Oui.
Voilà.
Ouais, tu réfléchis.
Bah, oui.
Et il était payé à Auxerre quand même.
Oui, bah, bien sûr. Mais là, le contrat s'est arrêté. Et puis, une dernière information niçoise. Nice va recruter un joueur de 24 ans qui vient d'Istanbul, Başakşehir. Il s'appelle Youssouf Ndayishimiye. Il arrive à Nice. C'est un polyvalent en milieu de terrain ou défenseur. Voilà, je vous le signale. Julien Laurence est là. Julien, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Ah oui, Julien, hier on a rapidement évoqué les infos du Daily Mail là, qui parlait de la volonté de l'UEFA d'essayer d'adapter des points de règlement. Parce que quand ils voient ce qui se passe à Chelsea, là, ils se disent, bah, attends, qu'est-ce que c'est que ce délire? Les autres clubs anglais râlent, ils disent, ouais, c'est pas légal, là, les longs contrats qu'ils font, parce qu'ils contournent le fair play financier, ils veulent étaler sur plusieurs années le coût de leur mercato. Après, on se dit, bon, bah, ils ont quand même, de toute façon, ils sont blindés d'oseille, donc est-ce que c'est vraiment ça leur stratégie? Donc, on s'est dit, tiens, et si on appelait Julien pour qu'il nous décrypte un peu ce qui se passe cet hiver en Angleterre, parce qu'il y a là des dépenses pharaoniques, comme d'habitude.
Là, c'est carrément un record qui est tombé. En fait, à chaque mercato, été ou hiver, les records tombent. Et je vais laisser parler Julien, mais après, je dirais, mais il faut bien qu'on mesure les conséquences que tout ça va avoir à très court terme.
Alors, Julien, après, dis-nous un peu quelle est la situation là cet hiver.
Alors pour l'instant, et il reste encore une semaine bien sûr dans ce marché des transferts du mois de janvier, les clubs anglais ont déjà dépensé 500 millions d'euros, notamment grâce aux dépenses de Chelsea bien sûr, qui a été le plus dépensier, plus de 200 millions d'euros pour donc Badiachil, Mudryk, Madueke, André Silva, tout ça. C'est pas terminé. En plus, pour Chelsea, qui a quand même fait une offre à 60 millions d'euros pour Caicedo, par exemple, à Brighton, qui a déjà fait une offre à 20 millions d'euros pour Malo Gusto à Lyon. Des offres qui pourraient encore augmenter parce que c'est des joueurs qui veulent absolument recruter maintenant. Donc je pense qu'on pourrait facilement rajouter entre aujourd'hui et mardi prochain un petit 150-200 millions d'euros à mon avis pour l'ensemble des clubs anglais avec la locomotive Chelsea bien sûr. Oui, parce que ce qui est bizarre, enfin bizarre entre guillemets, c'est que sur les 500 millions d'euros dépensés, par exemple Manchester United a quasiment pas dépensé, juste 10 millions d'euros pour Weghorst. Un club comme Newcastle par exemple est encore un petit peu en attente à la recherche. Un club comme Liverpool a dépensé sur Gapco, mais c'est tout. Tottenham vient de prendre Danjuma en prêt, mais c'est tout aussi. Donc tu peux penser que ces clubs-là, surtout à Tottenham par exemple, va encore plus se renforcer, donc dépenser dans les 7 jours qui arrivent.
En fait, aujourd'hui, je pense que la Première Ligue, elle va faire sauter le foot européen. Parce que, d'ailleurs, la plupart des clubs en Europe commencent à s'en plaindre. Tu ne peux plus du tout rivaliser sur le marché des transferts, à savoir que quand ils veulent quelqu'un, ils le prennent. Le football espagnol va en souffrir terriblement et le niveau de la Liga est en train de baisser. Alors on va me dire, oui, le Real a encore gagné la Ligue des Champions. Le Real est en fin de parcours avec sa génération de joueurs qui est en train de vieillir. Et quand il va falloir renouveler complètement l'effectif, on verra que ce sera de plus en plus dur. Pour le Barça, ça a été dur. On ne sait pas réellement où ils en sont au niveau international. Les clubs italiens ne pèsent plus grand-chose et ne peuvent plus rivaliser. Les clubs français, c'est terminé, à part le PSG qui peut un peu se battre sur le marché des transferts. Mais comme le fair-play financier, malgré le pouvoir de Nasser Al-Khelaifi à la tête de l'ECA, essaye de le contourner. Les Allemands, c'est pareil. Ils peuvent plus rivaliser. Donc, quelle va être la solution? C'est en tout cas sur ce constat que la Super League va œuvrer pour essayer de rassembler le maximum de clubs, même des clubs auxquels au début on n'avait pas pensé dans l'Europe du Nord, pour en gros constituer une force, pas d'appoint, mais pour rivaliser avec le championnat d'Angleterre. Parce que
attention, parce que les clubs qui composent la Super League, c'est quand même très important. Si demain c'est la Super League avec la Juve, ok, le Barça, ok, mais aussi Rosenborg, Brøndby et Rovaniemi, c'est quand même pas la même.
On n'est pas obligé d'aller jusqu'à Rovaniemi, mais en fait le truc c'est que à terme, même la Coupe d'Europe, je suis pas sûr que ça intéresse les clubs anglais.
La Champions League, historiquement, c'est pas
déjà. Oui. La Champions League, peut-être, mais tu vois bien que ça a même pas l'air d'être un drame quand ils n'y vont pas. Mais pour ce qui est des coupes en dessous, alors là, je peux te dire que les Anglais n'en ont rien à carrer. La Super League, ils l'ont déjà construite.
Rappelons que Tottenham a quand même réussi à faire un forfait récemment en Coupe d'Europe.
Quand on critique aujourd'hui le projet de Super League, en fait, le premier des constats, c'est de dire que la Super League, elle existe déjà. C'est la Première League qui va rassembler toutes les forces, toutes les valeurs, tous les joueurs qui vont être pompés de partout dans les clubs. Donc, qu'est-ce que vont faire les autres clubs européens? C'est pour ça d'ailleurs que la Super League n'est pas morte, que elle continue à que l'organisation qui maintenant a même une tête là, l'allemand là, parle avec les clubs. Ils ont même parlé avec trois clubs en France, hors PSG, et des clubs qui ont pas dit non, parce qu'ils voient bien s'il y a plus de salut.
Quel club?
Je peux pas le dire. Mais il y a pas de toute façon, c'est pas très compliqué à trouver. Ils sont pas allés parler à Brest, hein.
Non mais voilà. Juste j'arrête là. Évidemment que si par exemple tu es Nice, il dit bah, Nice potentiel économique. Donc on peut supposer qu'il faut,
Lens ça dit oui, Nice ça dit oui, Marseille ça dit oui tout de suite.
Attends, ils sont flattés, ils disent tiens, le Super League.
En fait, c'est juste un débouché économique.
Ah bah nous, on s'attendait pas à ce que vous appeliez.
Parce que sinon t'es quoi? T'es le club formateur pour l'Angleterre. C'était le club et puis dès que t'as un bon joueur, les Anglais vont venir et vont te le prendre. En fait, c'est ça que ça va devenir. De toute façon, d'ailleurs, on le voit à travers les réformes que met en place l'UEFA, aussi bien au niveau de la Ligue des Champions, de la Ligue des Nations. Je crois qu'on va pas avoir le temps d'en parler ce soir, mais t'as vu qu'ils veulent tout réformer dans les qualifs de l'Euro.
J'en ai parlé hier.
Dans la Ligue des Nations. Ouais, mais t'as vu, Ligue des Nations, il y a encore un projet qui est tombé aujourd'hui. Donc, il y a une refonte globale de toutes les compétitions. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a une économie qui pousse à une grosse réflexion là-dessus. Donc, ce projet de Super League, clairement il va revenir et Florentino Pérez ne lâchera pas, Barcelone ne lâchera pas. La Juve va être dans de sacrés emmerdements là, parce qu'au-delà des 15 points qu'ils ont perdus, il y a des enquêtes qui vont aboutir prochainement. Ça peut peut-être même aller plus loin et ils seront peut-être pas les seuls. Hein. Il va peut-être y avoir d'autres clubs qui indirectement vont être touchés, peut-être même des clubs en France. Donc tous ceux-là vont énormément souffrir. On peut se taper une crise monumentale du football en Europe. Donc il va falloir réagir. C'est pas la réforme de l'UEFA, la dernière de Seferin, avec le système de poules auquel on n'a rien compris, qui va sauver le football européen. Faudra aller plus loin, certainement. Et les Anglais, en battant les records à chaque mercato, en construisant des équipes en plus. Parce que ça ne veut pas dire que les Anglais vont forcément être beaucoup plus forts. Hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Parce que quand Chelsea et tous ces clubs qui sont dirigés par des Américains constituent des effectifs à 20 joueurs, 30 joueurs, 40 joueurs, avec des contrats longue durée que l'UEFA va être obligé de retoquer, ça va être le bordel. Hein. Rien ne dit que Chelsea va être très fort parce qu'ils sont en train de recruter comme des malades. Ou Tottenham en train de recruter également avec un Conte qui fait que chouiner. Ça ne veut pas dire que les Anglais vont être beaucoup plus forts. Hein. Attention, Manchester a souffert de la gestion des Américains. Ils commencent seulement maintenant à redresser la tête. Moi, je vous dis juste, le football en Europe est face à de très sérieux problèmes qui vont nécessiter de beaucoup de réformes et de repenser le football en Europe.
Oui, Julien.
Alors, ce qui est intéressant, on en parlait d'ailleurs avec Johan Crochet un petit peu l'autre jour, c'est que les Anglais ont beaucoup d'argent. Lors du marché des transferts estival, par exemple, sur les 5 grands championnats, à eux seuls, ils ont dépensé 49% des dépenses sur le marché des transferts.
C'est incroyable.
Donc, à eux-mêmes,
il n'y a pas une économie qui peut supporter un tel système.
Non, mais n'oublie pas non plus, Daniel, que sur les 20 clubs de Première Ligue, 17 perdent de l'argent. Donc, en plus, ils ont beaucoup d'argent, ils en dépensent beaucoup, mais ils font pas de profit, ils ont des pertes, ils ont des dettes. Donc,
s'il n'y a pas un contrôle, puisque l'Europe a échoué dans le contrôle, quand ils ont mis le fair play financier, bon, ça a tenu un peu, ça a quand même permis une certaine régulation, mais soit la Première Ligue, qui est capable d'être autonome, met un contrôle du nombre de joueurs, des années de contrat, et se fait son petit bazar à elle, comme elle l'a toujours fait, soit, et créer une compétition et une institution en Europe qui met, d'ailleurs c'est ce que veut faire la nouvelle version de la Super League, c'est mettre des contrôles de salaire, pas forcément, mais de durée de contrat, d'endettement des clubs, de redistribution. Ils veulent mettre énormément de contrôles parce que là, ça frise le n'importe quoi, là, ce qu'on voit.
Mais bon, les contrôles en Angleterre, dans le pays du libéralisme, ce sera compliqué. Pour revenir sur ce que disait Gilbert tout à l'heure sur la durée des contrats, bon courage pour que le droit du travail anglais. Donc, là, parce qu'en fait, c'est ça, on l'avait expliqué, je crois, il y a 15 jours, eux ont le droit d'avoir des longs contrats de plus de 5 ans, contrairement à la France, parce que le droit du travail en Angleterre le permet. Et la règle de l'UEFA dans les lois du jeu dit que c'est 5 ans maximum, sauf si dans ce pays-là, le droit du travail autorise à ce qu'il y ait des plus longs contrats. Les Anglais, bien sûr, voyant ça, ils ont dit, bah oui, nous, c'est ce que vous voulez, 5 ans, 10 ans, mais même avant, dans les années 90, il y a eu des contrats de 10 ans. Des contrats de 9 ans, bien avant aujourd'hui, bien avant ce que Chelsea fait, ça a toujours été comme ça. Donc, et alors, bon courage pour qu'on impose aux Anglais de respecter cette règle des 5 ans maximum comme les autres. Mais ce qui est encore plus intéressant, ils ont de l'argent, mais ils savent même pas quoi en faire. Ils savent même pas quoi le dépenser. Je pense que là où ce sera encore pire, Daniel, c'est le jour où ces clubs anglais-là seront intelligents dans leurs dépenses, dans leur recrutement. C'est-à-dire qu'au lieu de dépenser n'importe comment pour des joueurs en bois ou pour surpayer à droite, à gauche, le jour où ils le feront intelligemment, où ils auront cherché les bons profils, les bons joueurs, où ils auront des personnes en place qui savent ce qu'ils font, ce sera encore pire parce que là, ils seront vraiment très forts sur le terrain. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, ils dépensent beaucoup, mais au final, il n'y a pas une domination outrancière dans le sens où tu n'as pas 4 demi-finalistes de Ligue des Champions anglais.
Mais c'est parce que je te dis finales. Que c'est le cadet de leurs soucis, le foot européen aujourd'hui.
Non, pas vraiment. Je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus.
La Première Ligue, tout ça, ils s'en foutent. Un peu la Ligue des Champions, mais pas plus. Hein.
Bon, la Ligue des Champions, quand même, c'est.
Et encore, parce que tu as des coachs.
Alors, les gars, on va continuer le débat.
Tu as des coachs un peu ancienne génération et tout, mais quand ça va passer.
On va continuer le débat, d'autant que Flo n'est pas encore exprimé. 23h35. Pas mal d'avis également sur Direct Studio que je vous lirai dans quelques instants avant ensuite de parler des résultats du soir en Espagne et en Allemagne. À tout de suite dans l'after.